Interview.
1 interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec, par téléphone, Lorna Lowry. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
De même de votre acceptation. Lowry, vous êtes avec nous pour nous annoncer donc un stage buto que vous allez proposer le week-end du samedi 7 et dimanche 8 mars de 10 à 17 heures. Et ça se passera au Terre du Fumier, à Recoubeau. Et donc, vous proposerez un stage sur 2 journées qui permettent de découvrir un temps, un corps, une présence. Mais vous allez pouvoir nous détailler un peu le processus de cette transmission. Et donc, il y aura de la pratique, de l'exploration buto. Et puis, pour se découvrir ou approfondir son approche avec cette danse, c'est pour tous les niveaux et pour tout physique, hein, même. Alors, on peut peut-être avant tout, Lorna, vous demander de vous présenter aussi.
Oui, bien, par où commencer à me présenter? Je travaille donc à la danse buto depuis déjà bientôt 20 ans, à moins 15, c'est sûr. J'ai commencé par faire de la danse classique et après la danse contemporaine en Argentine. Et j'ai découvert les buto par la vie de la danse contemporaine, faisant des explorations. Et depuis, ça a été un peu, pour moi, une grande découverte, parce que ça venait rejoindre beaucoup des questionnements que j'avais vis-à-vis du corps et vis-à-vis de la danse, aussi de par mes études en parallèle de sociologie et de théâtre. J'avais dans cette pratique quelque chose qui me parlait au niveau d'un questionnement de notre rapport au corps et notre rapport à la danse en sens plus large. Et c'est ainsi que c'était aussi son côté, je pourrais dire, philosophique et sociologique dans cette pratique qui m'a attiré. Parce que on va essayer de mettre de côté certains a priori qu'on a par rapport au corps de danseur, qu'est-ce que c'est danser, qu'est-ce que c'est un corps qui peut danser, et on va venir chercher les corps en lui-même et qu'est-ce qu'il y a un corps à dire et comment un corps s'exprime ou est traversé par sa réalité d'aujourd'hui ou par sa mémoire ou par ce qui les constitue en tant que être de ce monde, non? Donc ça va aller au-delà d'une réponse performatique ou physique pour aller à ce qu'on appelle des fois plutôt un athlétisme plus spirituel ou poétique qui nous amène à bouger ou à danser.
La danse buto, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, n'est pas issue de cet événement d'Hiroshima. Hein. C'est une transmission et plutôt une mutation de la culture de la danse japonaise, du théâtre et des arts vivants du Japon.
Et oui, c'est intéressant ce que vous nommez par rapport à Hiroshima, parce que c'est une confusion qui revient souvent. Il faut dire donc que la danse buto est née dans un contexte très mouvementé des années 60 au Japon, comme était un contexte d'avant-garde dans des autres parties du monde, non, les avant-gardes des années 60. Et au Japon, c'était effectivement, comme partout dans le monde, au moment des post-guerre et après Hiroshima. Donc, évidemment, l'histoire d'Hiroshima va toucher la naissance de la danse buto, mais comme tout autre événement d'après-guerre a pu toucher l'expressionnisme allemand, la danse contemporaine américaine, etc. Et on était tous et toutes, ils étaient tous et toutes touchés par une situation d'après-guerre que les artistes, effectivement, on s'en emparait. Mais Hiroshima n'est pas une conséquence. Il y a un raccourci, en tout cas, qui a été fait à un moment donné, à dire les buto, c'est une conséquence d'Hiroshima. C'est une grande erreur, parce que comment les bouteaux va à déformer ou donner une esthétique du corps qui n'est pas celle de la danse contemporaine conventionnelle ou de la danse classique, un raccourci très rapide, c'était de dire, ah, c'est le corps issu du nucléaire. Et c'est dommage parce qu'en fait, la danse bouteau, c'est ce qu'elle va chercher, c'est de devoir ou de pouvoir exprimer sa partie montrable, sa partie n'est pas montrable du corps aussi. C'est pour ça que tout corps peut danser. Il n'y a pas une a priori esthétique, un a priori des âges, des genres, des races, etc. Tout ça est vraiment balayé dans cette pratique. Et donc, c'est très dangereux ce rapprochement à Hiroshima parce qu'on dit, ah, c'est des corps qui sont un peu bizarres, un peu déformés, c'est des corps nucléaires, non? Je le dis très rapidement, mais parce que c'était surtout des journalistes qui ont commencé à faire ça. Or, les Japonais vont, oui, ils vont parler d'Hiroshima parce que c'est leur histoire. Et évidemment, ils avaient des choses à dire d'Hiroshima, mais les Buto qui ont dansé ici en France, ça ne va pas parler d'Hiroshima, ça va parler des choses qui nous ont touchés peut-être en tant que Français, par exemple, non, Françaises. Donc, c'est intéressant déjà de savoir que la danse buto est née effectivement dans un contexte d'avant-garde contemporain des années 60 et aussi était nourrie par les arts traditionnels japonaises, comme les kabuki et les no, et la philosophie zen et le shintoïsme notamment, que c'est très animiste. Donc, de tout ce mélange naît un rapport au corps très, très particulier. Donc, on essaye de mettre voilà, en valeur dans cette pratique.
Lorna, vous avez eu une formation à l'Université nationale de Córdoba, en Argentine. Donc, vous avez eu une formation de danseuse classique et contemporaine. Et vous avez
Oui, à
exercé.
l'université, c'était la partie des théâtres, l'art dramatique plutôt. Au conservatoire avant et au théâtre, à danse. À l'université, c'était une formation d'art dramatique qui complétait la partie danse. Ouais.
Et vous avez également fait des études en sociologie. Donc, pour vous, il y avait cette nécessité aussi de connaître les sociétés auxquelles on évolue.
Oui, oh, c'est corps social plutôt aujourd'hui. C'est ce qui m'intéresse, c'est voir comment la société façonne nos corps, non? Et comment on peut aussi, on dit que le corps du buto, c'est un corps qui est mort au social, non? Mort à cette assignation sociale, qui va pouvoir se libérer de ces carcans qui est peut-être préétabli ou donné par un mandat social pour pouvoir venir danser librement ceux qui les traversent. On danse souvent en nature aussi, en buto. On dit que comme la philosophie zen parle souvent de l'univers en moi et moi dans l'univers, non? Comme une continuité, c'est corps que peut être même une continuité de l'univers. Et c'est pas quelque chose de très ésotérique, c'est très réel. C'est très réel que nous sommes constitués par de l'eau, par du minéral, par de l'air, par tout ce qui est autour de nous fait partie de nous. Donc, plutôt bien vraiment chercher ces origines-là et dire au-delà d'un être social, on est aussi tout ça. On est en contact avec tous les êtres vivants que nous rapprochent. Et c'est ces puissances, c'est des forces et c'est des choses qui peuvent se traduire dans une danse, effectivement. Qui des fois peut être très précis, les bouteaux peuvent avoir une partie technique, des fois avec beaucoup de précision, et moi j'aime bien travailler. Ça s'entraîne comme toute autre danse, mais les principes sont bien différents.
Sur cette formation de danse classique et contemporaine, où le corps est aussi recherche la pesanteur, hein, un peu dans cette proposition, contrairement à la danse buto, où j'ai l'impression que le corps est en relation avec la terre, le sol. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a peut-être aussi intéressé?
Le buto est très ancré à la terre, très très ancré à la terre. Oui, il y a une relation très forte à la terre. Je dirais que maintenant, par exemple, de la danse classique, c'était très difficile de descendre à la terre. Et tout ce que c'est les arts traditionnels japonaises, comme les no et les kabuki, vont travailler souvent avec les genoux fléchis, avec un rapport à la terre et à la plante des pieds très très fort. Et à différence des autres danses qui vont être beaucoup dans l'air et à s'envoler, non? Et à chercher effectivement les choses très éthérées. Là, dans ce bouteau, entre autres, bien chercher l'horizontalité, encore horizontale, encore qui n'est pas forcément dans un rapport vertical, dans le sens large du terme, non? Il va mettre en valeur toutes les parties du corps de la même façon, tandis que peut-être dans le classique, on va défendre une verticalité, une esthétique, et le danseur buteau peut se retrouver allongé par terre, avec le jambe en haut, la tête en bas, tout va être inversé, et dire, oh, c'est ce qu'on met en valeur, c'est un corps qui se déploie comme un paysage, non? Et qui peut danser dans tous ces détails. C'est là que souvent les danseurs buteaux, ils vont avoir peu de costumes, par exemple, parce que on a besoin que tous les corps soient visibles, parce qu'ils s'expriment dans ces moindres détails. Il y a aussi la lenteur qui revient souvent. On croit souvent que la danse buteau, c'est que de la lenteur. Je défends et je dis souvent non, elle n'est pas que de la lenteur, mais la lenteur souvent est nécessaire pour que les corps puissent être aperçus dans ces moindres détails et dans ces moindres précisions. Mais ça peut être très rapide aussi, la danse buteau, et on va travailler à des vitesses très hors du temps, ou des lenteurs hors du temps. L'intérêt, c'est de sortir de notre corps habituel, dans tous les sens.
D'ailleurs, on pourrait peut-être préciser l'origine de cette danse buteau. Quel est son discours, quelle est sa tradition,
Mais,
d'origine?
c'est une danse japonaise, comme je disais tout
Oui.
à l'heure. Et c'est une danse japonaise et contemporaine. Ça se défend comme un mouvement d'avant-garde, c'est une danse contemporaine. Mais vu qu'elle est née au Japon, comme je disais avant, par rapport à l'après-guerre, elle a été influencée par les mouvements d'avant-garde européennes, parce qu'Hijikata, l'écriture des buteaux, était très influencée par des écrivains, par des peintres, par Bacon, par exemple, Francis Bacon, Georges Bataille, et il y a plein de personnes qui vont influencer la naissance de la danse buteau. Mais de notre côté, va être aussi influencée par les arts traditionnels japonais, qui lui, duquel il s'est imprégné, mais les questionnant en même temps. Donc c'est vraiment un art qui est né au croisement de beaucoup d'esthétiques, mais là son côté très singulier.
Et d'ailleurs, je reviens sur votre propos. Vous citez Georges Bataille. En quoi a-t-il amené sa touche dans cette danse?
On peut citer aussi Jean Genet, Georges Bataille. Il y a plein de philosophes de cette époque qui venaient questionner. Je pense qu'il y avait quelque chose de très corporal qui venait questionner les sensations du corps et comment les sensations du corps étaient, disons, jugées dans notre société. Et il vient questionner une certaine sensualité du corps et des façons très très puissantes. C'était des propos très, je veux dire, je sais pas si révolutionnaire, mais provocateur, hein, pour la société à l'époque. Donc le buteau se sent représenté par ces questions de venir. Vraiment questionner d'une façon à l'époque, hein, je dis aujourd'hui, on n'a pas besoin peut-être de s'exprimer de la même façon qu'aux origines, et il faut aussi savoir ça, que le temps a changé, et peut-être la danse buteau aussi a changé avec le temps. Mais dans son origine, c'est ces propos provocateurs d'un corps qui avait besoin de s'exprimer dans la profondeur de ses sensations, et sans être jugé, etc. Ça correspondait en tout cas aux propos des Hijikata, hein, et de ses disciples. Et même que les peintres, je ne sais pas si vous voyez, Francis Bacon,
Si, si, tout à fait.
qui venait détourner et déformer la chair et à dire encore c'est ça, mais c'est aussi ça, et encore c'est aussi tout ça. Un visage n'est pas forcément un joli visage, c'est tout ce qu'il y a derrière le visage. Je pense que le visage, un danse buteau va danser comme une main, comme un pied. Le visage danse aussi. C'est pas une volonté de grimacer, c'est une volonté de dire notre visage n'est pas que social, c'est aussi un lieu d'expression. Donc tous ces textes ont inspiré quand même ont fait un socle aux pensées des Hijikata qui se nourrissaient beaucoup de ce qu'ils pouvaient aussi piocher des avant-gardes occidentales à l'époque.
Alors, vous allez rencontré justement en 2007. Vous croisez la compagnie de Buteau Incarma avec Léon Katz et Christelle Régnier. Et pour vous, c'est un nouveau départ dans l'expression artistique.
Oui, c'est... en fait, quand je suis arrivée à Paris, je venais d'Argentine. J'avais découvert la danse Buteau en Argentine avec quelqu'un qui avait été formé en France et avec des maîtres japonais. J'avais besoin de connaître un peu plus la danse Buteau. J'étais allée au Japon et après, je suis restée en Europe, justement pour chercher un peu plus les sources de cette danse que j'avais commencé à découvrir en Argentine. Et quand j'arrive à Paris, j'ai la chance de rencontrer Léon Katz, notamment, qui avait dansé avec Carlota Ikeda. Et Carlota Ikeda, c'est quelqu'un qui a décédé il n'y a pas longtemps, mais c'est une des figures du Buteau, des premières écoles de Buteau, des premières, comment dire, groupes qui ont, d'après Ishika,
Sankaijuku.
Oui, Sankaijuku, c'est en même temps plutôt que Carlota Ikeda et Ariadone. Ariadone, c'est une compagnie, Sankaijuku, c'est une autre,
oui.
C'est contemporaine. Ouais. Oui, c'est des compagnies.
Que j'avais, j'avais découvert oui. Justement la danse voilà, Buteau dans les années 90 au Mans. Et c'était un artiste seul sur scène et qui est parti d'une position accroupie et qui a mis à peu près 30 minutes pour se mettre en position debout. Voilà, donc tout en lenteur.
Et grande Kukumat s'appelle cette pièce de Amagatsu. Ouais.
Voilà, donc il y a des figures imposées dans la danse Buteau.
Exactement, exactement. Il y avait, comment je veux dire, les premières générations, c'est ça les mots que j'ai cherché. Il y avait toute une première génération de danseurs, danseuses Buteau qui est venue en Europe et qui sont connaître beaucoup mieux en Europe qu'au Japon même. Parce qu'au Japon, ça reste très underground et très provocateur, la danse Buteau, pour les arts traditionnels. Donc, bien que la danse Buteau est connue au Japon, elle a eu beaucoup plus de succès en Europe avec les Japonais qui sont venus comme Sankaijuku, comme Ariadone, Carlota Ikeda avec Ariadone, etc. Et ça, c'est très particulier. Il y a un ouvrage de Sylvain Pagès qui parle de la réception de Buteau en France et en Europe en général, comme un phénomène, non, comme quelque chose qui a pu plus grandir dehors de ses propres pays d'origine, non? Et c'est assez particulier, comme peut-être les Occidentaux, ici, on avait besoin d'exprimer quelque chose que la danse Buteau a permis. Il y a plein d'analyses là-dessus.
Alors, vous faites partie aussi de la compagnie Empreinte en Mouvement, née en 2014, hein, c'est dans les sud de la France. Et vous en êtes devenue la directrice artistique. Et donc, il y a en quelque sorte une école de cette danse.
Oui, après, donc pour continuer un peu le parcours, justement, après avoir été à Paris, avoir eu la chance de rencontrer Léon et de travailler plusieurs années à Paris, je suis descendue dans le sud. Et en 2014, j'ai créé Empreinte en Mouvement, qui est la compagnie avec laquelle je travaille actuellement dans le sud. Après, il y a un groupe qui est resté sur Paris, qui c'est la compagnie Takuave, avec laquelle je travaille à chaque fois que je monte à Paris, dans la direction aussi. Même ma compagnie qui réunit toutes mes activités et mes projets autour de la danse Buteau, c'est actuellement Empreinte Mouvement dans le sud. Vous avez dit le mot école, et c'est un mot dangereuse pour le Buteau, parce qu'on n'aime pas parler de quelque chose que Ijikat, en tout cas un des créateurs, même Katon, il niait ou il s'attendait du fait que ça puisse devenir quelque chose de scolaire ou académique. Ça serait contraire à son principe avant-gardiste, non, de devenir une technique comme la danse classique, on fait la barre tous les jours et on fait après les centres, la diagonale et les sauts. La danse Buteau résiste à être académisée ou scolarisée, bien que moi je suis quelqu'un dans mes stages, pour les gens qui viennent venir, mais c'est ça, on va pratiquer des choses plus sérieuses et on va, techniquement, on va peaufiner des choses, mais il n'y a pas une école, une technique précise, chaque danseur, danseuse buto va avoir sa possibilité de transmission et des partages de cette danse. Et donc, je peux dire, en empruntant un mouvement, on fait beaucoup de choses. Il y a mes stages, il y a des laboratoires d'investigation, il y a des événements, par exemple le 24 heures de buto, qu'on va organiser cet été dans le sud. Déjà, je profite pour
Oui,
passer
j'allais y venir après,
l'info.
à la fin de l'émission.
Oui, voilà. Et donc, effectivement, Printemps Moment, c'est une plateforme des choses. Je n'appellerais ça, pas ça une école, mais si un espace de transmission, des recherches, des créations et des partages, surtout de cette danse et de tout ce qu'elle peut nous donner et tout, comment elle peut se transformer. Parce que c'est encore une pratique en permanente transformation.
Je reviens un peu sur cette formation donc du 7 et 8 mars à Recoubo, au Tas de Fumier. En quoi consistera ces 2 journées dans le déroulement?
Bien, c'est un stage effectivement intensif des week-ends sur plusieurs heures. En discutant avec la personne qui l'organise, Alice, on essaie de les faire ouvertes à toute personne étant curieuse de découvrir ces pratiques. Et en général, moi j'aime bien que les stages puissent rester, comme vous avez dit au début de la mission, ouverts à toutes et tous, à toute personne qui se sent attirée par une pratique corporelle, par une pratique artistique qui met les corps en premier plan, je dirais. Et donc, sur ces 2 jours, bon, bien sûr, on va travailler sur la question de la métamorphose, de la transformation, mais je dirais que quand il y a un stage comme ça court des 2 jours, ça sert à pouvoir introduire déjà les bases, savoir de quoi il s'agit, commencer petit à petit à connaître les principes, par exemple, de la respiration. On va travailler beaucoup sur la respiration, les notions de centre du corps, les appuis, comment les principes de base et comment ces corps se retrouvent en présence dans l'espace avant même de commencer à danser. Et après, je travaille beaucoup sur des marches, des traversées de l'espace, des marches différentes qui vont appeler à différents peut-être états du corps, des animaux, etc. Et on va finir toujours par des improvisations. Des improvisations qui sont plus ou moins guidées par groupe, en travaillant avec l'observation des unes et des autres. C'est un stage auquel j'aimerais bien pouvoir partager avec les gens qui viennent une base d'introduction de cette danse.
Il y aura combien de personnes prévues?
Oui, je pense que maximum de 12, parce qu'il est entre 10 et 12, parce que l'espace n'est pas très grand.
Et pour ce qui est des inscriptions, donc je mettrai l'adresse sur la page de l'émission, hein, sur le site
Oui,
internet.
parce que c'est
Ah,
l'adresse des.
et sinon, un numéro de téléphone, hein, le 06 37 94 18 41. Ça se passe au Tas de Fumier. C'est une journée complète. Donc, chacun amène aussi de quoi se substanter.
Exactement. Oui, c'est en général, on fait une pause repas et c'est aussi l'occasion de discuter, d'échanger un peu et après continuer le travail l'après-midi.
La danse buto, je l'ai toujours vue pratiquer sur un sol de scène de théâtre ou de spectacle. Est-ce qu'il y a aussi cette danse proche de la terre? Donc, est-ce que vous opérerez des transmissions à même le sol?
Oui, comme je disais tout à l'heure, la danse buto, bien que bon, il y a des compagnies, comme vous avez mentionné, Sankajuku, etc., qui travaillent des scènes, la danse buto, surtout dans ses origines, elle est née sous forme de happening, était plutôt in situ, plutôt dans la rue, dans les paysages, dans l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a des danseurs, des danseuses buto qui vont travailler presque exclusivement en nature, par exemple. Et c'est très, très. En tout cas, par exemple, personnellement, moi, j'aime beaucoup travailler en extérieur et après en salle, faire les deux. Parce que le fait de travailler en extérieur, des fois, ça nous nourrit dans les contacts avec les éléments, etc. Et toute cette matière, après, on peut l'amener dans son travail, pendant le travail en salle. Et je pense que c'est intéressant de faire les deux. Il y a des danseurs par exemple, comme Mintanaka, qui travaillait exclusivement dehors. Et tout son travail était complètement dans la nature. Et ce n'est pas exclusif ni l'une ni l'autre. Personnellement, je sais, je pense que les deux sont nécessaires, en tout cas. Les autres danses, on n'a pas des sons forcément de l'extérieur. Je pense que pour danser buto, à un moment donné, il faut passer par la terre, comme vous venez de dire, et de danser à l'extérieur, de se retrouver en contact direct avec les ciels, la terre, les éléments, les végétales, etc. Et pas que, parce que peut-être tout ça va nourrir notre corps au niveau de force, de intensité, de texture. On va nourrir la façon dont on va bouger après.
La musique a une part aussi dans la création de la danse buto. Est-ce que il y a une complémentarité aussi dans la création? Est-ce que la musique accompagne ou alors incite aussi la danse?
Il n'y a pas une règle déterminée vis-à-vis du son. Beaucoup de danseurs, danseuses travaillent en silence. C'est-à-dire, en tout cas, si la musique est là, et à différence, pour dire, non, le cas le plus. Ne va pas marquer la danse comme dans la danse classique, ou comme dans certaines danses qu'on va devoir suivre un rythme. Et si la musique est là, ça va être souvent, quand on utilise la musique, c'est des ambiances. C'est des atmosphères que la musique va venir appuyer ou des dialogues. Par exemple, moi, dans mes créations de personnages, je travaillais souvent avec des musiciens à live et cette relation qui va s'établir avec les musiciennes ou la musicienne, c'est en relation de dialogue où la musique va devoir faire son chemin, elle est dans son chemin et après on se retrouve et après on se sépare. Il n'y a pas une qui dépend de l'autre, sinon c'est vraiment un partenaire. Et en général, quand c'est la musique enregistrée, la relation, c'est un peu la même. Ça peut m'arriver pendant un stage de mettre la musique un peu rythmée pour guider un moment d'entraînement, etc. Mais après, tout de suite, je vais élever la musique et tout le monde va se retrouver en silence. C'est-à-dire qu'on va vraiment brouiller les pistes pour qu'on s'accroche trop à une musique, pour que les corps ne soient pas dépendants de musique. Sinon, la musique peut venir aider, dialoguer, partir. Les sons, c'est un élément. Qui bien participer de la pratique, mais n'est pas réglé. Les musiques peuvent être très très diverses et variées. On va avoir souvent des musiques bruitistes, ou plus, je dirais, acoustiques, etc. Mais il peut tout avoir. C'est
C'est
très
plus, comme vous le disiez, c'est plus de l'ambiance que de la musique, hein.
Voilà, oui. Or, après, si on va voir des fois une pièce de 5 cajoux, etc., on peut voir des moments très, très musicaux et très attachés à la musique. Mais tout de suite après, ça va se décrocher. Hein? Surtout que ce n'est pas une règle.
Vous parliez justement des 24 heures de buto qui auront lieu donc les 6 juin et 7 juin. Ça se passera à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc 24 heures de buto non-stop, avec beaucoup de performeurs, de danse, d'ateliers, et puis des tables rondes autour du buto, avec une représentation internationale aussi de la danse buto pour ce rendez-vous.
Oui, en fait, bon, c'est la première année qu'on se lance dans cette aventure dont j'avais été faire depuis longtemps. Et c'est effectivement une traversée collective de 24 heures dans laquelle, c'est pas, il y a des personnes qui me disent, ah, ça va être comment, faites une rave. Non, non, c'est pas une rave où on va danser toute la nuit sans arrêt. C'est vraiment une traversée dans laquelle voilà, beaucoup de choses vont se passer, mais assez doucement, assez tranquillement. Il y a des moments où on dansera peut-être plus, et des autres moments où on sera en train de discuter, de parler. Après, il y a d'autres moments où on va peut-être regarder une performance. L'idée, c'est pour pouvoir entrer dans un temps un peu parallèle où les choses se succèdent sans forcément être préoccupé par des 5 à 6, on fait ça, des 6 à 7, hein. Sinon un temps qui soit plus guidé par les corps et par les manifestations du corps qui vont se succéder. Mais pouvoir être justement dédié à ça pendant 24 heures et profiter de ce temps que se rallonge, que se rallonge et qu'on n'a pas à décortiquer comme on est d'habitude habitué dans notre vie quotidienne, non? En tout cas, trouver un temps différent. C'est un peu ça les défis. Et on a des invités comme Yumiko Shoshioka qui vient de Berlin, Maki Watanabe qui vient de Paris, après des collectifs et des boutons comme Fen Théâtre, les collectifs Blob, Joséphine Grandi de Barcelone, la compagnie Carval des Minorque, bon, plein de personnes. Je pense qu'on va prendre beaucoup pour cette première année, mais bon, on va voir bien qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, tout le monde est content de venir, de participer à cette expérience. Et on verra bien.
En attendant, donc rendez-vous avec vous, Lorna Lowry, c'est 7 et 8 mars au Tas de Fumier, donc pour ce stage de danse buto. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.
Mais merci Yann, c'est précieux pour aussi pour les stages, pour l'organisation du stage. Élise m'a dit c'est génial, comme ça va faire venir du monde, etc. C'est génial.
Bonne soirée à vous.
Merci Yann. Au revoir.